Bonjour à tous, ça va bien? Heureux de vous retrouver en grand nombre. On poursuit dans notre série dans Romains un très, très beau passage et je pense que Dieu va nous parler ce matin parce qu'il est puissant. Ce passage-là m'a parlé, m'a édifié encore une fois. Vous savez, à l'espoir, on prie pour être une église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ, mais la lettre aux Romains, c'est la lettre où aller pour vraiment être émerveillé par l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, la semaine dernière, Clément m'a volé un bout de mon texte. On va régler ça ensemble. Mais maintenant, c'est comme ça que le passage de ce matin commence. Mais maintenant, sans la loi, ce que Paul a établi jusqu'à présent, c'est que ceux qui ne connaissent pas la Bible, parce que lorsqu'il est question de loi, ici, on parle de la Bible, ceux qui ne connaissent pas la Bible peuvent quand même connaître Dieu dans le sens qu'il y a un créateur qui est là. La nature nous parle d'un créateur. Et quelqu'un qui dit non, il n'y a pas de Dieu, Paul nous dit qu'il est inexcusable. Il est inexcusable d'aller au point à l'endroit où il dit non, mais moi je suis le centre de l'univers. Moi je vais trouver le sens de mon existence en moi-même. Je n'ai pas besoin de Dieu. Et dans Romains 2, ce que Paul fait, c'est qu'il dit, OK, mais attendez, là, je vous connais, vous les religieux. Vous dites, ah, Seigneur, je te bénis de ce que je ne suis pas comme le reste du monde qui n'ont pas la Bible, parce que moi j'ai la Bible. Et Paul dit, non, vous êtes encore plus coupable si c'est possible, parce que vous avez une connaissance beaucoup plus précise de Dieu, puis en fait, vous êtes des hypocrites, vous prenez ça pour vous justifier devant Dieu. Et c'est vraiment sur cette idée que Paul termine en disant, personne ne va être justifié par les œuvres de la loi. C'est là qu'on se tourne ce matin. Et donc, à quoi sert la loi? Est-ce que Paul est en train de rejeter les 10 commandements, rejeter l'Ancien Testament? Pas du tout. Il dit, la loi est parfaite. La loi nous aide à vraiment avoir du discernement pour dire, ça c'est bon, ça oui, ça non, avoir du discernement sur ce qui est bien, où on doit aller. Mais en même temps, la loi nous condamne. La loi nous condamne parce qu'elle révèle. La loi révèle qu'on n'est pas à la hauteur. Et donc, la loi devient un pédagogue qui me confronte, qui confronte ma conscience. C'est ce que Paul nous dit ici. Sans la loi. La loi est un pédagogue, un miroir que Dieu place devant nos yeux. Et on va aller ensemble dans la prière pour que Dieu vienne nous montrer la beauté de l'Évangile. Parce que là, ce mystère-là est dévoilé aujourd'hui d'une manière extraordinaire. Et je vous avertis, ça va être confrontant. Ça va être confrontant parce qu'en principe, si on a bien compris Paul, tout le monde ici est pécheur. Tout le monde. On va aller dans la prière. Père éternel, on vient dans ta présence pour t'adorer, pour te célébrer, pour te dire qu'on veut marcher dans tes voies et entendre ta parole. Seigneur, tu nous as déjà démontré qu'on est tous pécheurs. Tu nous as déjà démontré que nous avons besoin de toi, Seigneur. Père, viens nous parler par tes Écritures. Viens parler à nos cœurs. C'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.
Alors, bon matin. Le passage biblique de ce matin est dans Romains 3, les versets 21 à 31, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Romains 3 et au verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi.
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quel passage incroyable, incroyable. Cette semaine, j'étais en train de laver les toilettes chez moi. J'ai eu une mauvaise surprise en levant le couvercle des toilettes. J'avais été un peu négligent dernièrement. Puis j'étais en train de méditer sur ce passage-là, littéralement. Au moment où j'étais en train de nettoyer les toilettes, que je fais une mauvaise découverte, je tombe sur ce passage-là, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et puis j'ai pensé à vous. J'ai dit, mais oui, c'est en plein ça. C'est ça que Paul vient juste d'établir. Paul vient d'établir que toute notre justice, c'est comme une toilette souillée. Certains d'entre nous, c'est ce que Paul vient de dire, bien, tu sais, on a des belles toilettes. Elles sont comme vraiment bien. Tu lèves le couvercle, tu découvres d'autres choses. D'autres, c'est tellement bien que, bien, tu ne boirais pas dedans, on s'entend? Tu ne transformerais pas ça en abreuvoir. D'autres, bien, ça vous est déjà arrivé d'avoir, tu sais, comme très envie, vous êtes sur la route, vous arrêtez dans une toilette publique, vous ouvrez la porte, puis wow! Vous n'avez plus envie, vous êtes bon pour 2 heures. Ça vous est déjà arrivé? Certains d'entre nous, nos vies ressemblent plus à ça. Donc, il y en a que c'est très rangé, tu sais. Tu t'installerais là avec un petit journal, confortable pour 2 heures. D'autres, tu te sauves en courant. Nos vies sont n'importe comment. Mais dans tous les cas, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Jamais tu pourras te faire croire que ce bol de toilette est en fait un abreuvoir. Ça ne passera pas. Gardez ça en tête. Gardez ça en tête. Ce matin, on va voir ensemble que la gloire est perdue, la justice vient de Dieu et tout se reçoit par la foi. La gloire est perdue, la justice vient de Dieu et tout se reçoit par la foi. La gloire de Dieu, la gloire perdue, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pour certains, ça va être étrange comme affirmation, privé de la gloire de Dieu. Ben, Dieu peut bien la garder, sa gloire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de la gloire de Dieu? J'ai ma gloire, il y a la sienne. Bon, tant mieux pour lui, tu sais. On ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Et en fait, il y a beaucoup ici. Paul ne parle pas simplement d'un espèce d'échec moral devant Dieu. Pour comprendre de quoi il est question ici, il faut retourner à la création de l'humanité. À l'origine de toute chose, Dieu nous a créés à son image. L'être humain a été créé à l'image de Dieu, homme et femme à l'image de Dieu, pour refléter sa gloire. Donc, on a été créé à sa ressemblance, pour faire le bien, pour vraiment gérer, même prendre soin de la terre d'une manière qui glorifie, pour avoir des interactions ensemble qui parlent de Dieu juste dans notre manière d'agir. Tu te dis, waouh! Et ce que Paul est en train de dire ici, tous ont été privés de la gloire de Dieu, ça veut dire que dans notre nature, à quelque part, il y a quelque chose de brisé qui fait qu'on n'arrive pas à vivre selon notre vocation. Une voiture sur une route, ça va. Une voiture avec des pneus d'hiver au Québec, ça va. Une voiture au milieu du fleuve en été, ça ne marche pas. Ce n'est pas sa vocation. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans notre vocation, dans notre nature profonde, nous n'arrivons plus à assumer, à vivre vraiment selon ce qu'on est appelé à faire. Glorifier Dieu dans tout ce qu'on est, dans toute notre être. Premièrement, une dimension vocationnelle ou créationnelle. Deuxième élément, perdre la gloire de Dieu, être privé de la gloire de Dieu, c'est relationnel. Parce que Dieu est saint, parce que Dieu est juste, parce que Dieu est bon, parce que Dieu est parfait et parce que Dieu ne tolère pas la présence du péché. Et donc, être privé de la gloire de Dieu, c'est être privé d'un accès à Dieu. C'est d'être privé d'être près de Dieu. Là, c'est autre chose. Ce n'est pas simplement, bien, il y a sa gloire, j'ai la mienne. Non, c'est que tu n'as plus accès à Dieu. Et tu peux te faire croire que tu as accès à Dieu, mais Dieu te dit non. Parce que tu m'es insupportable. Pensez à ma bolle de toilette. n'es pas un joli abreuvoir, mon ami. Troisièmement, il y a une dimension, terme théologique, eschatologique, qui parle de la fin des temps. Ultimement, le destin de l'humanité, c'est de passer l'éternité avec Dieu. C'est ça notre appel. On a été créés pour être dans la présence de Dieu, de notre vivant ici sur terre et dans l'éternité, nouveaux cieux, nouvelle terre. Être privé de la gloire de Dieu, c'est qu'à la fin, ma destinée, ce n'est pas d'aller dans la présence de Dieu. Non, je suis éternellement privé de la gloire de Dieu, de la présence glorieuse de Dieu. Et donc, lorsque Paul nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est que par nature, je n'arrive pas à être vraiment ce que je devrais être. Je vais chercher à être toutes sortes d'autres choses, mais je ne serai pas en mesure de refléter Dieu. Ça veut dire que ma relation avec Dieu n'est pas disponible réellement. Bien sûr, je peux crier à l'aide. Bien sûr, Dieu fait grâce. Bien sûr, Dieu répond à toutes sortes de prières. Mais une véritable communion avec Dieu, comme un bon repas avec un ami, non, ce n'est pas disponible. Et enfin, troisièmement, tu es privé de cette gloire éternelle, d'être avec Dieu, réuni avec lui pour l'éternité. Et Cranfield a dit comme ceci, « La gloire de Dieu, c'est l'approbation et la présence de Dieu que l'humanité a perdue à cause du péché. » Et ce qu'il y a de ridicule, Paul souligne un peu, encore une fois, la folie humaine. Il va dire au verset 27, « Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres. » Paul est ironique ici en disant « Ceux qui ont perdu la gloire de Dieu cherchent maintenant à se glorifier. » Si vous vous rappelez du chapitre 1, c'est ça, on cherche une gloire dans autre chose que Dieu. Et ceux qui sont religieux, ça va être dans leur performance. Ils essaient de négocier avec Dieu. « Seigneur, je ne suis pas à la hauteur de ta gloire. Je ne suis pas parfait comme toi. » « OK, Seigneur, je ne suis pas parfait comme toi, mais je suis quelqu'un de bien quand même. Regarde tout ce que je fais. » Tu sais, quand même, il y a quelque chose à considérer. Ce n'est pas tout acheté aux toilettes. Il y a quelque chose de bon dans tout ça. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Il est exclu entièrement, complètement. Tom Schreiner va dire, si toute fierté humaine est exclue, c'est parce que personne n'a atteint la gloire de Dieu. Ce que je veux, c'est être en relation avec un être parfait, parfait moralement, sans péché, juste, droit, amour. Cette perfection-là m'est inaccessible. Pas parce que je ne suis pas Dieu, parce que je suis pécheur. J'ai perdu cet accès-là. On a été créé pour avoir accès à Dieu. Dans le jardin, Adam et Ève avaient accès à Dieu. La communion était parfaite, tout y était. Ils reflétaient Dieu, ils étaient en communion avec Dieu, ils allaient passer l'éternité avec Dieu. Déjà, leur éternité avec Dieu commençait là. Et puis l'être humain se rebelle, se révolte, pêche. Dieu dépose un jugement et dit, « Tu ne poursuivras pas ta vie comme ça. Je te condamne à mort. » Non seulement à mort physiquement, mais tu vas vivre cette déchéance-là de la mort de plein de manières dans la nature, dans ta santé, à travers la maladie, dans vos relations, parce que vous êtes mort spirituellement, incapable de refléter la gloire de Dieu, et tu vas être séparé de ma gloire pour l'éternité. Nous sommes tous des toilettes souillées. Désolé, ça m'est venu en méditant sur le passage. Et comme je vous dis, il y en a qui brillent, il y en a qui sont belles. Ça a l'air qu'il y en a même en or, j'en ai jamais vu. Mais même en or, je ne boirais pas dedans. Ça ne se transformera pas en abreuvoir pour moi, cette affaire-là. À la question que Paul nous pose et que le texte nous pose à ce moment-ci, c'est est-ce que tu reconnais que devant Dieu, toutes tes œuvres ne valent pas mieux qu'un bol de toilette? Est-ce que tu reconnais ça ou tu as la prétention de dire, « Non, non, regarde, je vais le mettre tellement propre que tu vas avoir le goût de boire dedans. » Est-ce que tu es encore là dans ta compréhension de Dieu et de toi-même? Un endroit où tu dis, « Non, laisse-moi frotter encore, tu vas voir, ça va devenir alléchant cette affaire-là. » va t'en licher les babines. Est-ce que tu es là ou est-ce que tu reconnais que le meilleur que tu pourras faire ne changera pas ça? Tu es privé de la gloire de Dieu. Toutes tes œuvres cachent derrière toutes sortes d'autres choses. Et ce matin, je prêche dans une église. Dans une église, c'est la meilleure place pour trouver des gens qui ont des bols de toilette très propres, moralement, et qui se prennent au sérieux là-dedans. Plutôt qu'avoir l'humilité de dire « Non, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. » Parce que par nature, c'est ce qu'on cherche à faire. Par nature, on cherche à se justifier. Puis on se compare avec les autres, puis on dit « Ouf, écoute, j'en ai vu, là, t'ouvres la porte, tu te sauves en courant. » C'est comme « That's a messy life. » Ça, c'est une vie qui pue. La mienne, quand même. Je suis quelqu'un de bien. J'aime mon épouse, je prends soin de mes enfants. Je ne vais pas voir ailleurs. Je paye mes impôts. Je vais à l'église. Je suis quelqu'un de bien. Mais pas aux yeux de Dieu. Pas aux yeux de Dieu. T'es où? T'es où là-dedans? Mais maintenant, la justice de Dieu. Il y a une bonne nouvelle. La justice de Dieu. Une justice révélée par Dieu que l'être humain ne peut pas produire. Et là, Paul aborde peut-être le plus grand mystère de la Bible. Comment un Dieu juste peut-il déclarer juste des injustes? Sans se renier lui-même. Une justice révélée par Dieu que l'être humain ne peut produire. Mais maintenant, sans la loi, sans que tu arrives à te qualifier en obéissant à la loi, tu vois, en mettant toute ta vie en ordre, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Cette justice-là ne viendra pas de la loi. Ce n'est pas par tes performances que tu vas te qualifier pour que Dieu dise « Je t'ai examiné, Yannick, je te connais et ta vie est juste. » Non, j'ai renoncé à ça. Mais Paul va plus loin et dit « L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, n'est pas en conflit avec la loi de l'Ancien Testament. Toute la loi dans l'Ancien Testament, les 10 commandements, toutes les règles qu'il y avait pour le peuple juif, tout ce que les prophètes annonçaient, ne vient pas en opposition. Au contraire, Jésus, en mourant sur la croix, est la résolution, est l'accomplissement de la loi. Parce que la loi, comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement nous aide à avoir du discernement, elle est encore bonne pour les chrétiens. Je vais lire les Écritures tous les jours, je veux connaître la loi de Dieu parce qu'elle aiguise mon jugement. Mais en même temps, si j'essayais de me qualifier en disant « moi, j'obéis parfaitement à la loi me condamne. La loi me condamne. Et c'est en Jésus-Christ que se trouve la solution. La justice ne vient pas de la performance, ne contredit pas l'Ancien Testament. Au contraire, elle accomplit ce que la loi et les prophètes annonçaient. Et ce que Paul dit, il dit que c'est une justice qui passe par la rédemption. On aime les films qui ont une histoire de rédemption. Où à la fin, là, celui qui est tordu, qui est tout croche, va quelque part faire du bien pour racheter une situation. On est moins familier avec le terme, mais pourtant, c'est là dans plein de concepts qu'on utilise constamment. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, gratuitement déclarés justes. C'est un cadeau par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Comment un Dieu juste peut-il te déclarer, toi et moi, nous déclarer, nous des injustes, juste devant lui? C'est par le moyen de la rédemption. La rédemption, c'est quand quelqu'un paie le prix pour te sortir d'une situation dont tu ne pouvais te sortir toi-même. C'est ça une rédemption. Quand quelqu'un paie le prix pour te sortir d'une situation dont tu ne pouvais pas te sortir toi-même. Dans la Bible, être racheté, ce n'est pas être excusé. C'est pas « ah, c'est beau, on oublie ça ». C'est pas ça dans la Bible. Être racheté, c'est être libéré parce qu'un autre a payé pour toi. Il y a quelqu'un qui a payé à ta place. Paul ne dit pas que Dieu a fermé les yeux sur notre péché. Toi et moi, on est pécheurs, on pêche, on bronche de plusieurs manières, nous dit l'apôtre Paul. Il peut nous arriver de fermer nos yeux sur les péchés d'autres personnes parce qu'après tout, on se regarde et on se dit « Écoute, qui suis-je pour lancer la première pierre? » Mais Dieu dit, « Qui suis-je pour lancer la première pierre? Dieu. Dieu? Dieu ne se regarde jamais dans le miroir en disant, « Ouais, écoute, je ne serai pas trop dur avec eux. Après tout, moi. » Non, c'est Dieu. À cette question que celui qui est sans péché lance la première pierre, Dieu dit présent. « Je suis celui qui exercera la justice sur l'humanité. » Et si Dieu n'exerce pas constamment la justice contre le mal que font les hommes et les femmes sur la terre, actuellement, Pierre nous dit que c'est qu'il use de patience afin qu'on puisse se repentir. Autrement, tous mourraient immédiatement. Mais Dieu use de patience afin qu'on puisse être touché par ce message de l'Évangile. Touché par ce message de l'Évangile. Paul ne dit pas que Dieu a fermé les yeux sur notre péché, mais qu'il a payé le prix pour nous en faire sortir. La grâce gratuite pour nous a coûté cher à Dieu. Il y a quelqu'un qui a payé le prix, c'est Christ sur la croix. C'est le Père qui a donné son Fils. C'est la Sainte Trinité qui s'est engagée dans ce projet extraordinaire de payer à ma place. Cette semaine, j'ai aidé un petit couple en boostant leur voiture. J'étais pressé, ça ne me donnait pas tellement. Il m'arrête, « Monsieur, monsieur, on a des câbles de booster. Est-ce que tu pourrais juste nous aider à repartir ma voiture, tout ça? » C'est bon. Ouvre le hood, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. J'ai posé un geste de rédemption. Vous allez me dire, c'est un petit geste, là. Ils n'ont pas fait rentrer au ciel. Mais ils n'ont pas appelé de dépanneuse. Ils n'ont pas payé pour une dépanneuse. Je me suis arrêté, puis j'ai ouvert le capot de ma voiture, puis on a démarré leur voiture, puis je suis parti. J'ai posé un geste de rédemption. Ce n'est pas quelque chose... Ils ne m'ont pas payé. Je l'ai fait gratuitement. On a racheté une situation. Ils étaient dans le pétrin, ils étaient mal pris. Je l'ai fait. C'est un acte de rédemption. C'est ce que Christ a fait. Ils ne pouvaient pas la partir eux-mêmes, leur voiture. Ils ne pouvaient pas le faire. Ils avaient besoin que quelqu'un les sorte du pétrin. C'est un tout petit geste, là. Mais vous comprenez Christ, ce qu'il fait? C'est que toi et moi, on est privés de la gloire de Dieu. Par nature, on n'est plus capable de marcher dans les voies de Dieu vraiment. On a été créés pour refléter Dieu, mais on n'y parvient plus. On est privés d'une vraie relation avec Dieu, et dans l'éternité, on est condamné à ne pas être dans sa présence, privés de la gloire de Dieu. Et Christ intervient, Jésus intervient, Dieu le Fils devient homme, meurt sur la croix et vient payer le prix de nos fautes à notre place. Pendant que j'étais en train d'étudier le passage, j'avais l'image qui me venait à l'esprit d'un juge, les yeux remplis de compassion, qui passe ses journées à taper puis à dire « Pardonnez, 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 pardonnez. » Parce que c'est ce que Dieu fait à toute personne, nous dit l'apôtre Paul, qui croit dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et Paul va utiliser une autre expression qui est parlante, qui nous aide à comprendre. Une justice démontrée par la propitiation, des termes ce matin, là. Donc, versets 25-26, c'est lui que Dieu a destiné par son sang pour ceux qui croiraient, à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Dans l'Ancien Testament, on offrait des sacrifices. Dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, dans le temple, on offrait des sacrifices. Ces sacrifices-là ne sauvaient personne. C'était symbolique, c'était aussi un festin, c'était une occasion de célébrer la grâce de Dieu, mais il représentait quelque chose. Et dans le lieu très saint, il y avait l'Arche de l'Alliance. Le couvercle de l'Arche de l'Alliance est ce propitiatoire où, une fois par année, le souverain sacrificateur venait verser. Vous allez me dire, c'est gore ton affaire ce matin. Pensez à la croix, c'est rien à côté de la croix. Venait verser du sang sur le couvercle de l'Arche de l'Alliance pour symboliser le fait que quelqu'un d'autre a payé pour les péchés du peuple. Tout ceci n'avait aucun effet en lui-même. Dieu a laissé impuni, c'est ça qu'il nous dit, parce que ceci annonçait qu'un jour viendrait où une véritable victime propitiatoire, s'offrirait pour les péchés des hommes, pour tous ceux qui croiraient en lui, Jésus-Christ, mort sur la croix. Amen. Mort sur la croix pour tes péchés et les miens, si tu crois. Le péché a un coût, et ce coût-là est pris en charge par Christ sur la croix ou par toi lorsque tu vas te présenter devant Dieu si tu ne crois pas. Paul nous dit que ce Jésus de Nazareth qui a été crucifié en se livrant pour être pendu au bois a été fait victime propitiatoire à notre place. Dieu ne ferme pas les yeux sur le péché. Dieu juge le péché en Jésus-Christ. Dieu demeure juste tout en justifiant parce que Christ s'est offert volontairement, parce que Dieu a offert son Fils volontairement. Carson dit, Romains 3, 25-26, montre que le pardon de Dieu n'est pas arbitraire. Ce n'est pas Dieu qui dit, ah, ça va, ça va. Dieu reste juste même lorsqu'il déclare juste le pécheur. Voyez-vous, à la croix, Dieu ne ferme pas les yeux sur le mal. Au contraire, il regarde le mal en face. Et il assume le prix. Il assume le prix. Jésus devient l'endroit où la justice de Dieu et la grâce se rencontrent. En Jésus-Christ, Jésus devient victime propitiatoire. À ma place et la tienne. Je reviens à mon illustration du bol de toilette. Je ne vous laisserai pas aller si facilement. Pensez-y. Je lave ma toilette qui était surprenamment souillée. Je tire la chaîne, c'est beau. Je me déplace comme ça, j'ouvre le robinet, puis je bois de l'eau. C'est la même eau? Pas exactement la même, mais qu'est-ce qui fait que je tire ça, je ne boirai jamais ça, je me tasse ici, j'ouvre ça, puis je bois de l'eau. Paul nous dit... C'est quoi qui se passe entre les deux? Jésus. Vous comprenez que c'est une image, là? Pas Jésus qui opère les centrales à Longueuil. Mais l'image parle. Qu'est-ce qui fait que je deviens agréable aux yeux de Dieu, moi qui étais dans toute ma justice tout croche, pas plus sympathique et alléchant qu'un bol de toilette? Et que Dieu, après, va m'accueillir dans sa présence. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est Jésus. Et certains d'entre nous vont passer leur vie à dire, non, attends. Je suis capable de nettoyer cette toilette-là. Écoute, tu vas te garrocher dedans. Une grande soif, là, la tête première. Wow! C'est ce que Paul nous dit. Tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas y arriver. Tu as besoin quand, à la toilette. Vous n'irez plus jamais à la toilette de la même manière, je vous le dis. Entre la toilette et le robinet, Jésus. Et là, tout d'un coup, tu deviens agréable aux yeux de Dieu. C'est vraiment magnifique, l'Évangile, je vous dis. C'est vraiment magnifique. Et puis honnêtement, je suis encore dans ma salle de toilette. Ça prend de la foi quand même. Quand tu penses par où passe l'eau qu'on boit, ça prend quand même de la foi. Là. Tu dis, j'espère qu'ils font bien leur job cette semaine. Est-ce que moi je veux boire ça? Là? C'est exactement ça que Paul nous dit ici. Troisième élément, la foi. La foi comme moyen, pas comme mérite. La foi comme moyen, pas comme mérite. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Ce n'est pas une œuvre, ce n'est pas moi qui vais me qualifier, ce n'est pas une performance spirituelle, c'est une réception. Je choisis de croire dans le sacrifice de Jésus à la croix. J'ai l'humilité de reconnaître que même quand je fais une bonne journée, c'est encore ordinaire comparativement à Dieu. J'ai l'humilité de reconnaître que je ne reflète pas vraiment Dieu au quotidien. J'ai l'humilité de reconnaître que si Dieu est parfait, comme la Bible nous dit qu'il est parfait, ce n'est pas possible que j'ai accès à lui vraiment. Je reconnais que si moi j'étais Dieu, je n'aurais peut-être pas le goût de passer l'éternité avec moi. je suis privé de la gloire de Dieu. Je suis privé de la gloire de Dieu. Et j'accepte par la foi que Jésus-Christ m'a racheté en mourant sur la croix, qu'il a été victime propitiatoire pour moi. La foi exclut la loi, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Sans les œuvres de la loi. La foi n'est pas anti-obéissance, la foi est anti-auto-justification. Est-ce que vous avez suivi ça? Paul va développer ça, ça va venir. Là, il y en a qui vont dire, OK, mais par la foi, on peut faire n'importe quoi. On s'en fout de la balle de toile. Non, c'est pas ça. La foi n'est pas anti-obéissance, elle est anti-auto-justification. Le christianisme ne commence pas par « fait mieux », mais il commence par « reçoit ». C'est vraiment une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. C'est une nouvelle incroyable. On est habitué d'être dans des rapports de transactions constamment. Et elles sont nécessaires. Je veux dire, tu veux avoir un emploi. Tu veux que le CV soit à la hauteur. Tu veux avoir l'emploi. Tu veux garder ton emploi. Tu veux avoir des promotions. Tu dois performer pour avoir ça. Tu dis, écoute, moi, je suis seul. J'aimerais ça me marier un jour. Je vais me prendre en main un peu. J'aimerais ça attirer un peu l'attention. Tu sais, quand même, quelque chose. Tu sais, tu veux garder des amitiés. Tu vas travailler pour les garder, tes amitiés. Puis Dieu vient, puis dit, tu n'as rien à faire, aucune performance. Puis je t'adopte dans ma famille. C'est l'histoire de ma conversion. C'est l'histoire de ma conversion. Je me sentais reject dans ma vie personnelle, dans ma famille, à l'école. J'avais développé toutes sortes de comportements délinquants pour ne plus l'être. Mais j'étais juste en train de compenser avec le fait que j'avais juste honte d'être moi-même. Et j'avais l'impression d'aller d'échec en échec en échec. Jusqu'au jour où j'ai abdiqué et par la foi, j'ai dit, « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Et là, à ce moment-là, Dieu me dit, « Tu ne t'es pas amélioré d'une goutte depuis tantôt. Mais je t'adopte. Tu fais partie de ma famille maintenant. Tu n'as rien fait de mieux. Tu vas être un long projet, Yannick. Beaucoup de travail pour faire quelque chose avec toi, je te le dis. Là. Ça ne change rien. Je t'adopte dans ma famille. Mes enfants... C'est mes héritiers. Tu es un de mes héritiers maintenant. Et quand j'ai commencé à aller à l'église, au moment de ma conversion, les chrétiens, c'est ça que je sentais. Je fais partie d'une nouvelle famille. Ça a changé mon comportement complètement. J'étais accepté, j'étais aimé par Dieu, par la famille de Dieu. Je me suis épanoui dans ça. Pas que l'église est parfaite, mais une fois que l'église réalise qu'on est tous des bols de toilette souillées, ça change tout. Hey, je réalise la grâce de Dieu envers moi. C'est littéralement l'expérience de ma conversion. Je suis passé d'un individu qui avait honte de ce qu'il était, de ce qu'il faisait et de ce qu'il deviendrait à quelqu'un qui se savait aimé de Dieu. Pas plus compétent, pas plus hot, mais aimé de Dieu. Parce qu'entre mes œuvres et la personne de Dieu, il y avait Jésus. Et tout d'un coup, je faisais partie de la famille. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. La foi n'est pas une performance, c'est renoncer à toute prétention devant Dieu. Voyez-vous, le christianisme ne commence pas par « fait mieux », mais par « reçoit ». Et Paul va plus loin, il va dire « la foi unifie tous sous un seul Dieu ». La foi, ce n'est pas l'affaire de tel ou tel peuple, ou telle nation, ou telle culture, ou telle démographie, ou tel sexe. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et les incirconcis. Et ce signal que Dieu donne de dire, ce message-là n'est pas pour les Juifs seulement, les circoncis, mais pour tous les êtres humains de la terre. Parce qu'on est tous pécheurs. Et la somme totale de nos bonnes œuvres ne transformeront pas notre bol de toilette en un abreuvoir alléchant. Pour que je passe d'ici à là, puis que j'ai envie de boire, ça prend Jésus. Où est-ce que tu te trouves actuellement? Dans quelques semaines, on va avoir des baptêmes. Dans quelques instants, on va prendre le repas du Seigneur, puis on va célébrer l'œuvre de Christ à la croix. Où est-ce que tu te situes actuellement? Est-ce que tu essaies encore de te justifier? Puis Dieu est un beau concept, tu aimes bien venir à l'église, les gens sont gentils, on nous parle d'un Dieu, tout ça. Mais toi, tu es où? Qu'est-ce que tu offres à Dieu? Ce matin, ce que je te dis, c'est arrête de lui offrir. Ouvre les mains, pas pour lui offrir ce que tu as comme performance à donner ou dire « Non, mais quand même, je suis quelqu'un de bien, arrête Yannick, là. Ma vie n'est pas si tout croche que ça. » Si tu savais quand Dieu regarde ta vie à quel point elle l'est, tu peux te bercer d'illusions autant que tu veux, mais on parle de Dieu ici. Là. Si c'était moi qui te jugeais, écoute, je ne suis pas tellement hot à mes yeux, ça passerait. On parle de Dieu. Arrête d'offrir. Garde les mains ouvertes et reçois. Reçois la grâce de Dieu. Accepte qu'il a fallu que quelqu'un d'autre paie le prix à ta place. Il a fallu qu'un sang soit versé pour qu'un Dieu juste puisse te déclarer, toi, un injuste, justifié devant Dieu. Et fais le pas de foi ce matin. Fais le pas de foi de dire, « Seigneur, je veux cette grâce-là. Je veux cette grâce-là. J'accepte, Seigneur, que c'est seulement par grâce. » Et si à quelque part dans ta vie chrétienne, tu t'es détourné de cette vérité-là, ta vie chrétienne est misérable. Parce qu'on revient là tous les jours. Autrement, on est des petits religieux, les amis. On finit la journée, on regarde en arrière, on dit « Pas pire, je vais bien dormir. » J'espère que ce n'est pas pour ça que tu dors bien. Tu devrais bien dormir parce que tu dis « Jésus m'aime. Jésus m'aime. Il est mort sur la croix pour mes péchés. » Puis je commence la journée, puis je dis « Ça va peut-être être une toffe, peut-être que je vais me décevoir moi-même, mais tu sais quoi? Jésus m'aime, j'appartiens à la famille de Dieu. » Et si tu ne vis pas dans cette joie-là quotidiennement, c'est que l'Évangile ne fait pas partie de ton quotidien. Tu ne reviens pas assez souvent à l'Évangile. Tu vas chercher ailleurs des choses qui vont être un moteur pour toi. Je sais que ce n'est pas un pep talk standard ce matin, là. « Hey, à l'église, à l'espoir, ils ont dit qu'on était des bols de toilette. » Je comprends. Mais vous comprenez l'image? C'est tellement reposant de savoir que je n'ai pas besoin, moi, de me transformer et accepter la grâce de Dieu. Ce matin, pendant qu'on va prendre le repas du Seigneur, le pasteur Basile va nous conduire. Disposez vos cœurs à apprécier l'Évangile de Jésus-Christ. Et si tu n'as pas encore répondu à cet appel-là, je t'enjoins ce matin, je t'invite. C'est vraiment une vie extraordinaire à faire partie de la famille de Dieu. Accepter cette grâce-là. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence pour t'adorer, pour te célébrer, parce que t'es magnifique, t'es merveilleux, tu es difficile à concevoir dans ta bonté, ta justice, ta sainteté. Et Seigneur, c'est un brisement pour nous de reconnaître que même si on essaie de bien faire, même si on essaie d'être des gens bien, à la fin de la journée, devant toi, notre vie ne vaut pas grand-chose, Seigneur, parce que notre vie est remplie de mensonges, est remplie de fourberies, d'égoïsme, Seigneur. Jamais rien de beau comme toi. Et pourtant, tu nous as créés, nous dit la parole, de peu inférieur à Dieu en gloire, parce que tu nous as créés à ton image. Il y a cet appel à la noblesse en nous parce que tu nous as créés à ton image. Mais nous sommes perdus, Seigneur, brisés, incapables de véritablement refléter la personne de Dieu. Seigneur, on veut le confesser, le reconnaître ce matin. On vient dans ta présence, humblement, se préparant pour prendre le repas du Seigneur, en reconnaissant que toi seul, tu es Dieu. Et que toi seul pouvais concevoir un projet de salut, de sauvetage, une mission de sauvetage, de rédemption aussi magnifique que l'Évangile. Personne d'autre pouvait concevoir un projet qui comportait autant d'amour et d'abnégation, Seigneur. Seigneur, on veut te célébrer dans nos cœurs ce matin, c'est en Jésus qu'on te prie. Amen.